Bonjour tout le monde. Je suis ravi de vous revoir. Ça fait quelque temps qu'on ne s'est pas vu. Donc on va reprendre notre texte qui est dans 1 Corinthiens. Et 1 Corinthiens, donc ça, on sera au chapitre 3. Et dans ce texte, nous rappelons quand même que nous suivons une série. Nous ne sommes pas juste dans des bouts de texte, mais c'est tout un livre qu'on présente. Et dans ce livre, quand les livres sont écrits dans la Bible, il y a toujours une raison importante. Il y a quelque chose qui est à enseigner. Et ce qui est bien, c'est que lorsque nous suivons un livre, ben nous bénéficions de l'enseignement qui était dû et qui a été donné par le Saint-Esprit dans ce livre. Donc lorsque nous suivons Corinthiens, l'idée, c'est avec Fabrice, c'est qu'on suive quelque chose qui nous est imposé quand même. On ne va pas prêcher quelque chose qu'on a envie de prêcher, on va prêcher quelque chose qui est déjà là. Et donc, on va vous exposer. C'est-à-dire que ce qui est écrit dans 1 Corinthien, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthien. Ce qui va être prêché dans 1 Corinthien, c'est ce que Dieu a voulu nous faire connaître dans sa parole. Du coup, ça va vous permettre, vous, de simplement, quand vous relirez, de vous dire, ah oui, je me souviens, c'était ça qui était écrit. Ah oui, c'est ça que Dieu voulait. C'est pour ça que c'est plus simple. C'est plus simple pour nous. Ça nous évite même de dire des bêtises. Autant se soumettre à ce qui a déjà été écrit. Et ça nous permet de grandir avec la parole de Dieu et de comprendre tout. Souvent, on connaît bien des versets. Mais c'est quand même mieux de connaître le livre. Et c'est ça l'avantage que l'on va avoir. Et l'avantage que ces Corinthiens avaient, c'est qu'ils avaient l'apôtre qui avait enseigné, quelqu'un qui avait reçu un enseignement directement de Jésus-Christ, était capable de les enseigner. Et nous n'avons pas reçu d'enseignement directement de Jésus-Christ, nous recevons de sa parole. Alors nous allons prendre exactement ce qu'il y a dedans, pour redonner ce qui a été enseigné. Et les Corinthiens avaient besoin de cet enseignement. Si vous vous souvenez, les Corinthiens, leur problème, c'est qu'ils avaient une vie de division, une vie de débauche. On a chanté tout à l'heure, Jésus donne vie, bonheur, joie et paix, à qui se confie en lui pour jamais. On l'a chanté. Est-ce que c'est ce qu'on voyait dans la vie des Corinthiens, bonheur, joie et paix? Alors c'est qu'il y a un problème. Et s'il y a un problème, il faut rappeler le principal, Jésus qui donne vie. Et c'est l'enseignement que nous allons voir encore dans 1 Corinthiens. Car depuis le début, ce qui est déplorable dans l'attitude des Corinthiens, c'est que dans leur manière de vivre, de parler, ils témoignent qu'ils ne suivent plus Jésus-Christ qui est la vie, mais ils suivent leur propre sagesse qui mène à la destruction, aux divisions. Car ils avaient mis au départ Christ comme fondement de leur vie, et ils avaient commencé par la grâce et la paix, mais au final, ils terminent par débauche et division. Et c'était tellement choquant que quelqu'un a rapporté ça à Paul. On voit ça, comme on l'a dit les fois précédentes, dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 11 à 13, où il est dit « Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? » Leur vie de division, de rivalité était tellement visible que les gens de Chloé, ils ont vu ça, ils se disent, bah, il faut quand même qu'on fasse appel à Paul pour qu'il donne l'enseignement qui convient. Quelque chose ne va pas. Et ces Corinthiens utilisaient même le nom de Paul, d'Apollos et de Céphas pour justifier leur division, leur rivalité. Mais chacun avait un seul et unique parti, le sien. Moi. Moi, je suis d'eux. Moi, je pense que suivez-moi, pas les autres. Vous savez, ça nous rappelle un peu la vieille époque. La vieille époque dans les cours de récréation. Quand chacun essaie de dire « Mon père, c'est le meilleur. Mon papa, c'est le meilleur. » Qu'est-ce qu'il fait ton papa? Il est chauffeur de bus. Ah, mais non, le mien, il est chauffeur de TGV. Non, le mien, il est pilote d'avion. Et c'est un peu comme ça dans les cours de récréation, c'est-à-dire que on essaie de mettre en avant le poste du papa pour dire quoi? C'est moi la star dans la cour de récréation. Pourtant, les parents, je ne crois pas qu'ils avaient des problèmes entre eux. Les parents, ça allait très bien, peut-être même qu'ils étaient des bons amis, mais chacun voulait dire « c'est mon papa qui a le job le plus important ». Il faut se rappeler quand même une chose, c'est que l'on soit chauffeur de bus, que l'on soit chauffeur de train, que l'on soit pilote d'avion, c'est du service public. C'est bénéfique à qui ? À tout le monde. Donc ce qu'il aurait fallu faire comprendre, au lieu de jouer dans la cour de récréation « mon père c'est meilleur », c'est « ah, ils rendent des bons services quand même, nos parents ». Et c'est le problème de ces Corinthiens. Ils sont là en train de présenter Paul, Apollos et Céphas comme disant que certains sont meilleurs que d'autres. Une cour de récréation à l'intérieur d'une église. S'il est normal d'aimer son père et d'être fier de lui parce qu'on le connaît mieux, parce que c'est lui qui nous a aidés à grandir, on ne peut pas dire qu'il est plus utile que les autres au sein d'une société. Chacun fournit un service qui est important dont tous ses bénéficiaires. Service bus, train, avion, c'est utile à tous, comme on l'a dit. Mais les chrétiens de Corinthe ne le comprennent pas. Ils se comportent comme des enfants dans une cour de récréation. Alors Paul va le reprendre comme des quoi ? Comme des enfants. Et c'est ce que vous avez vu la dernière fois. Chapitre 3, on peut relire du verset 1er au verset 5. Chapitre 3, verset 1er à 5, il est dit « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. » Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc Apollos ? Qu'est-ce donc Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Quand même, Paul a passé du temps, il a fondé cette église, il a enseigné pendant un an et demi et plus. Il s'attendait à voir quoi ? Des hommes spirituels. Et il s'est retrouvé devant des hommes charnels. Ce sont des adultes dans le Seigneur, mais ils se comportent comme des enfants. Si vous voyez un adulte se comporter comme un enfant, vous allez dire quoi ? Un enfant qui se comporte comme un enfant, on le comprend. Mais un adulte qui se comporte comme un enfant, il y a un problème, ça va. Et c'était un peu ça. Les gens de Chloé, ils ont dit, il y a un problème, ça ne va pas. Ils se comportent comme des enfants alors qu'ils sont censés être des adultes. Tout comme ils sont censés être des hommes spirituels, donc des hommes avec l'esprit, pourtant ils se comportent avec des hommes comme des hommes charnels, donc comme des hommes qui n'ont pas l'esprit. Donc le témoignage, c'était un témoignage qui était en défaveur de Dieu. Ils disent qu'ils sont une église de Dieu, mais ils sont divisés. Et il dit, en effet, pourquoi ils sont charnels ? Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels ? Voilà le témoignage des Corinthiens. Un témoignage tellement visible qu'il montrait des jalousies et des disputes que ce qu'on pouvait dire d'eux, c'est qu'ils étaient charnels. Ils étaient censés vivre selon l'esprit, mais ils avaient toujours, comme on l'a répété, une vie à la corinthienne, comme n'importe qui dans la ville de Corinthe. Dirigés par la chair, une vie normale selon ce monde, mais incompatible avec une vie en communion en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est saint. Et les jalousies et les disputes ne sont pas une vie de sainteté. Il n'y a pas de jalousie ni de dispute au ciel. Vous êtes d'accord ? Est-ce que vous attendez à avoir des jalousies et disputes au ciel ? Alors il ne devrait pas avoir ça dans l'église de Dieu. Mais ces Corinthiens avaient un souci, et Paul avait repéré le souci. Et ça se trouve au verset 3. La dernière partie, on l'avait vu la dernière fois. Ne marchez-vous pas selon l'homme. Vous savez, c'est très facile d'aller dans les jalousies et disputes. Il suffit de marcher selon qui ? L'homme. Il y a des humains ici ? Moi, j'en suis un. C'est facile de marcher selon moi. Mais le résultat, c'est quoi ? Il est dit ici ? Jalousie et dispute. Et c'est le problème de tous les hommes. Ne vous étonnez pas s'il y a des jalousies et des disputes dehors. Et quoi qu'il se passe, dans le monde, dans les sociétés, dans tout ce que vous voulez, tout est jalousie et dispute. Pourquoi ? Parce que la marche de l'homme, elle est simple, elle dit « moi, je ». Et le plus important, c'est qui ? C'est moi. Donc, peu importe les autres. Et ça, c'est quelque chose qui ne doit plus exister dans les églises. Dans l'église de Corinthe, ça ne devrait plus exister. Ça ne peut pas être mon plaisir avant tout, mes désirs avant tout, ma volonté avant tout, ma sagesse avant tout, ma philosophie avant tout. N'alimentant pas la chair. Les jalousies et les divisions n'arrivent que lorsque on veut briller plus que les autres, lorsqu'on se croit au-dessus des autres, lorsqu'on veut être glorifié, montrer qu'on est meilleur. On l'a vu dans l'exemple des enfants dans la cour de récréation. Ils auraient dû mettre en valeur les métiers de leurs parents en disant ça vous sert. Mais ils ont mis en valeur, souvent, dans les cours de récréation, autre chose. Le papa, qui est le plus honoré, c'est le plus connu, le mieux payé. Celui qui a un bel uniforme, qui a une voiture de fonction, qui voyage beaucoup. C'est comme ça qu'on honore les gens, non ? Ah, il a un beau costume, ah, je l'honore. Et quoi encore ? Ah, il est connu, il est célèbre. Oh, son papa, il est célèbre. Et tout le monde veut devenir son quoi ? Son ami. Mais ça, c'est dans le monde, c'est dans les cours des récréations. Mais c'est pas comme ça dans l'église de Dieu. Dans nos églises, nous devons nous rappeler que chaque ministère est avant tout un service pour tous. Il n'y a pas de super ministère. Il y a des ministères, des services. Nous ne sommes que des serviteurs au service de la foi. Et c'est ce que nous avons lu au verset 5 que vous avez lu la semaine dernière. Il dit quoi ? Qu'est-ce donc Apollos ? Qu'est-ce donc Paul ? Des quoi ? Serviteurs. Par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ça n'intéresse personne de savoir qui est le meilleur orateur, Paul ou Apollos. Ça intéresse quelqu'un ? Ça n'intéresse personne. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt quels enseignements ont été apportés dans vos vies. Qu'est-ce qui a changé dans vos vies après tous ces enseignements ? Ça, c'est intéressant. Comment est-ce que vous avez reçu la parole, l'évangile ? Est-ce que Jésus-Christ crucifié a eu un effet dans votre vie ? Ça, c'est intéressant à savoir. Parce que ça glorifie le Seigneur. Il ne s'agit pas de comparer ou de commenter l'enseignement, mais de croire à l'enseignement que le Seigneur a donné à chacun d'entre eux pour qu'il le donne à l'Assemblée. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le texte que l'on va prendre se trouve tout à la fin de ce chapitre, du verset 21 à 23, pour nous expliquer encore mieux cela. Il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Tout est à vous. C'est merveilleux, tout ça, tout est à vous. Plutôt que de comparer ou d'opposer les serviteurs, dites-vous simplement, tout est à vous. Tout est à votre avantage. Quel est l'intérêt de faire des comparaisons ? Pour tous les chrétiens qui mettez les pieds dans cette église, on peut dire « Tout est à vous ». Le verset précédent, 22. « Tout est à vous ». Pose une question. À qui sert cette salle ? À qui sert-elle ? À vous ? À qui sert ce piano ? À vous ? À qui sert ce vidéoprojecteur ? À vous ? À qui sert la cuisine ? À vous ? Et les prédicateurs, ils servent à qui ? À vous ? Pourquoi ils sont à votre service s'ils vous amènent la nourriture qui vient de Dieu ? Les musiciens sont à vous, ils vous accompagnent pour que vous puissiez louer Dieu. La garderie est à vous, elle est là pour que vous puissiez vous concentrer sur le culte et laisser vos enfants là-bas. Le club des enfants est à vous pour qu'ils puissent enseigner vos enfants sur des histoires qui vont changer leur vie, les histoires qui sont dans la parole de Dieu. Le ménage est à vous. Vous êtes bien content d'être dans une salle où tout est propre, tout est à vous. C'est ce qui est écrit. Et rappelez-vous donc, qu'est-ce qu'Apollos, qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Les serviteurs sont des moyens. Un moyen, ce n'est pas la finalité. C'est un moyen pour croire. Ils ne sont pas ceux en qui il faut croire, ils sont juste un moyen. Et c'est un peu, vous savez, avant, aujourd'hui qu'on veut diffuser de l'information, on a les journaux, on a les blogs, voilà, tout ce que vous voulez. Mais auparavant, il fallait des messagers. C'était bien plus clair à l'époque. Et les rois envoyaient des messagers. Et imaginez, un roi vous amène un message, vous êtes invité au château. Et vous allez dire quoi ? Oh, je suis invité au château du messager. C'est ça que vous vous dites ? Au château de qui vous êtes invité ? De celui qui a lancé l'invitation, du roi. Et là, cette parole, lorsque nous l'amenons, c'est la parole de Dieu. Et ce que l'on prend avec, c'est ce qui vient de Dieu. Et vous allez rendre gloire à qui ? À Dieu. Merci Seigneur. Le messager, peut-être que vous allez le recevoir pour lui donner un lit à manger, à boire, pour qu'il ait un peu de force pour repartir. Mais ce n'est pas lui à qui vous allez rendre gloire. Vous rendez gloire au roi. Et soit Paul, soit Céphas, soit le monde, soit Apollos, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. C'est un peu comme ce verset que l'on connaît bien par cœur, qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Tout est à vous, tout est à votre avantage. Tout est à votre avantage. Toute chose concourt à votre bien. Mais seulement si, le verset suivant, 23, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. C'est un désavantage si vous n'êtes pas à Christ. Mais si vous êtes à Christ, vous êtes avantagé. Et parfois on l'oublie, on pense qu'on est comme les autres. Oui, on est comme les autres dans notre nature. Mais nous avons un avantage. Nous avons un avantage, c'est que nous appartenons à Christ. Et si nous appartenons à Christ, ça devrait être différent dans notre vie. Déjà, lorsque nous donnons gloire, comme on l'a dit tout à l'heure, non pas aux moyens que Dieu donne, mais à celui qui donne les moyens. La gloire n'est pas à mettre dans le messager, on l'a vu, mais à celui qui l'a envoyé. Mais la gloire n'est pas à mettre non plus, si on regarde le verset précédent, il n'est pas à mettre dans le monde, ce que vous avez dans le monde. Mais il est à mettre en qui ? En celui qui pourvoit à vos besoins dans ce monde. La gloire, elle n'est pas à mettre dans notre vie ici-bas, mais dans celui qui nous a donné une nouvelle vie ici-bas. La gloire n'est pas à mettre dans les choses, dans la mort qui est vaincue même, mais plutôt dans celui qui a vaincu la mort. Parfois, notre joie, c'est de dire « Ah, je suis sauvé, maintenant je fais ce que je veux. » Non, il faut continuer à rendre gloire à celui qui nous a donné la victoire. Et c'est pareil, la gloire n'est pas à mettre dans les choses présentes. Vous savez, les choses présentes, elles peuvent disparaître demain. Par contre, il y en a un qui sera toujours là chaque jour. Celui à qui il faut rendre gloire. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et la gloire n'est pas non plus dans les choses à venir, dans nos projets, dans les choses qu'on pourrait penser. On met gloire en celui qui donne l'espérance. On ne sait pas ce qui va arriver demain, sauf ce que Dieu dit. Ça, on sait que c'est sûr et certain. Voilà pourquoi nous rendons gloire. Le Seigneur reviendra. On rend gloire à cela. Gloire à Dieu, il va revenir, même si on ne l'a pas encore vu. Car oui, tout est à vous, mais vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. C'est la raison pour laquelle tout est à vous. Parce que nous bénéficions de ce qui est à Christ. Nous bénéficions de ce qui est à Dieu. Mais si vous n'avez pas Christ dans votre vie, comme on l'a vu tout à l'heure, vous n'aurez ni ce bonheur, ni cette joie, ni cette paix. Toutes ces choses viennent de qui ? Viennent de Dieu. Viennent de Christ. Et Dieu va expliquer la manière qu'il va utiliser. Pourquoi est-ce qu'il utilise tout cela, les serviteurs, et toutes ces situations dans lesquelles parfois nous nous plaignons, le monde dans lequel on vit, la vie qu'on a, la mort qui nous attend, ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui nous attend demain, souvent nous nous plaignons. Mais ici, on voit que c'est un avantage. C'est un avantage pourquoi ? C'est ce que Dieu utilise pour nous amener aux fruits qu'il a voulu depuis le départ, à ce pourquoi il nous a appelés, à être saints. Dans le monde, on pense que si on se retire du monde, c'est là qu'on vit une vie de sainteté. Quand on se retire de la vie, on se retire des choses qui nous font peur, de la mort, on se retire des choses présentes, on ne pense pas à l'avenir, c'est ça, mener une vie de sainteté, et on se cloisonne quelque part. Et dans ce passage, il dit que non, c'est notre avantage de vivre au milieu de tout cela. Pour que nous puissions être saints. La parole de Dieu enseignée par Apollos, Céphas et Paul, mais aussi toutes les choses qui viennent qu'on vient rencontrer dans notre vie, nous permettre d'atteindre l'objectif de Dieu, la vocation que nous avons, la sainteté. Et vous savez, Dieu, il a tout préparé pour cela. Il a donné tous les moyens. Et il en dit un petit résumé là, mais il en a parlé auparavant. On peut commencer à partir du verset 9. Il y a une manière d'exposer de Dieu. Il va utiliser trois images pour nous montrer comment Dieu réalise cette sainteté dans notre vie. Comment Dieu nous amène à accomplir cette vocation. Il dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Il a donné des ouvriers et nous, premièrement, nous sommes quoi ? Un champ. Et deuxièmement, nous sommes quoi ? Un édifice. Et troisièmement, au verset 16, on peut le voir. Nous ne savons pas que vous êtes quoi ? Le temple de Dieu. Donc trois aspects qui devraient nous permettre de comprendre qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie. D'abord, verset 9, vous êtes le chant de Dieu. Vous avez déjà vu des chants. Mais là, c'est un chant où on plante quelque chose qui porte un fruit. C'est plus une image, un petit peu un champ, un verger. Et quand vous voyez un verger ou un champ, de toute manière, c'est à peu près la même chose. On plante quelque chose pour que ça porte du fruit. Mais le fruit auquel vous vous attendez. Vous ne plantez pas et vous dites, ah, je ne sais pas ce qui va sortir, et puis on verra ce qu'on va récolter. Dans un champ, c'est bien quadrillé, et vous savez que là, ce sont des raisins. Là, ce sont des pommes. Là, ce sont des poires. On sait ce qui s'y trouve. Et quand un propriétaire demande à ce qu'on plante, il ne dit pas, oh, écoute, jette toutes tes graines là, et puis on verra ce qui va sortir de là. Et ce que Dieu veut, c'est la sainteté. Donc le fruit qui doit sortir, c'est la sainteté. Et les arbres doivent être plantés où ? Dans le champ où ça peut se faire. Le champ de Dieu. Un arbre fruitier qui ne porte pas le fruit que son propriétaire voulait ne sert à rien. Il n'est pas utile. Un arbre fruitier a son meilleur avantage quand il porte beaucoup de fruits. Et plus il en porte, plus cet arbre est beau. Et plus il est utile à son propriétaire. Savez-vous à qui vous appartenez ? Qui est le propriétaire de votre vie ? On l'a vu, hein ? Il y a ceux qui ont dit à Christ. Si c'est Christ, vous devez avoir le fruit que Christ voulait. Si c'est Dieu, vous devez avoir le fruit que Dieu voulait. Et Dieu, le Père, et Dieu, le Fils, est-ce qu'ils veulent des fruits différents ? La même chose, ils veulent. Et savez-vous quel fruit il attend de vous ? Vous avez été appelé par vocation, il dit au départ, vous avez été appelé par vocation à être quoi ? À être saint. Le fruit de la sainteté, vous éloignez du péché. Alors le propriétaire du champ va mettre tous les moyens pour que nous puissions porter le fruit qu'il attend de nous. Le fruit qui lui est agréable, cette sainteté, un fruit bon et sans tache. La sainteté, c'est ça. Est-ce qu'il y a des taches dans la sainteté ? C'est un peu comme un beau fruit, vous regardez ? Il est super bon, il a l'air super bon, et vous le prenez. Quels moyens Dieu a-t-il donné pour que nous puissions porter du fruit ? Il l'a déjà dit un peu avant au verset 6. Dans un champ, il faut quoi ? J'ai planté. Il faut d'abord planter. Qui a planté ? C'est Paul. Le Seigneur a donné à ce serviteur de planter des arbres fruitiers qu'il aura lui-même amenés dans le champ de Dieu. Cela signifie que Paul a planté tout le monde dans un même endroit. Est-ce qu'il a dit aux chrétiens, « Bon, maintenant que vous êtes en Christ, chacun de son côté, restez dans vos maisons et on est très bien chez nous. » Il a décidé de les mettre dans un même quoi ? Un même champ. C'est quoi ce champ ? C'est l'Église. On est là tous ensemble, dans un même champ, on est en train de planter ici, à écouter la parole de Dieu. Et lorsque ces arbres sont plantés droitement ensemble, ça s'appelle un verger. Et vous savez pourquoi est-ce qu'on met tous ces arbres côte à côte ? Pourquoi on ne les met pas séparément, chacun dans la nature ? Après tout, dans la nature, il y a des fruits aussi. Pourquoi on met des vergers ? Est-ce que vous savez ? Est-ce que vous savez comment se reproduisent les plantes ? Par du pollen. Mais plus ils sont proches, plus le pollen a des chances de faire quoi ? D'atteindre les autres. C'est à ça que sert un verger. Sinon, vous vous laissez dehors, dans la nature, et puis ça pousse, c'est pas grave. Mais dans les vergers, ça pousse plus qu'à l'extérieur. Pourquoi ? Parce que chacun apporte du pollen pour celui qui est à côté. Et c'est un peu dans l'Église, c'est la même chose, non ? Pourquoi on est ensemble ? Pour apporter quelque chose à celui qui est à côté, un service. Quelque chose qui n'était pas possible si on est seul. Si on est seul, peut-être qu'on va porter du fruit, mais un tout petit peu de fruit. Voire pas du tout. Et vous savez, pour qu'un arbre ait du fruit, souvent on se dit, hop, je plante, et puis dans un an, je récolte. Parfois, il y a des arbres, ça met 7 ans. Et ce qu'on dit, c'est, il faut le mettre à côté d'un arbre de la même espèce. Et tu verras, il y aura plus de fruits. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a mis dans un champ. Et un champ, c'est bien ordonné. Un champ, c'est quelque chose où vous voyez les mêmes espèces, les mêmes fruits. Donc lorsque Paul plante les Corinthiens dans le champ de Dieu, il les a mis à leur avantage, pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils portent de meilleurs fruits. Avant, quand ils étaient dans les bois sauvages, dans un sol où même aucun bon fruit ne peut pousser, la terre y était sèche, pleine de cailloux, c'était le monde, ils portaient quoi comme fruit ? Ben rien du tout, en tout cas pas les fruits de la sainteté. le champ de Dieu est bien ordonné. Dieu ne nous a pas isolés chacun de son côté. Un arbre isolé ou à trop grande distance des autres est un arbre qui ne portera pas de fruits ou peu de fruits. C'est ce qu'on a dit. Mais ce que Dieu veut, c'est voir pousser ce fruit au milieu de nous. Et il faut se poser la question, pourquoi parfois dans ma vie, il y a peu de fruits qui poussent ? Ben parce que Dieu nous demande quoi ? De ne pas être éloigné des autres arbres. Et c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Quelles sont les premières choses qui étaient à conserver dans l'Église ? L'enseignement de la parole, la communion fraternelle, quoi encore ? Les prières et, on a fait quoi aujourd'hui ? La fraction du pain. Voilà les choses qui sont vitales dans une Église. Si vous enlevez ça, il va y avoir des lacunes. Et s'il manque de communion fraternelle, il y a forcément des lacunes. Et c'est ce qui est arrivé dans cette ville de Corinthe. Quand il dit « moi je », c'est « je suis spécial, je suis à part ». Donc je me mets de côté, différemment des autres. Et se mettre de côté, ce n'est pas forcément le plus venir à l'église, c'est juste de dire « moi je suis à part, je n'ai rien à prendre des autres. Je suis un petit peu plus au-dessus quand même ». Voilà pourquoi ces Corinthiens, au lieu de devenir des adultes, ils sont restés des enfants. Mais pour porter du fruit, du bon fruit, on l'a vu, il ne suffit pas de rester ensemble. Paul a planté et Apollos a arrosé. On peut être en bonne terre, gloire à Dieu, c'est déjà ce qui est bien. Mais lorsque nous voulons dans l'église, nous ne voulons pas juste pour nous réunir et discuter et papoter ensemble de ce qui se passait la semaine. Nous voulons pourquoi ? Pour être arrosé, pour recevoir la fraîcheur de la parole de Dieu et de pouvoir grandir avec cela. Et si on ne reçoit pas, si on n'est pas arrosé, qu'est-ce qu'on devient ? Sec et dur. Et parfois, quand nous sommes secs et durs avec les autres, eh ben, c'est qu'il manque d'eau. Il manque d'eau. Et dans la communion fraternelle, il faut de l'eau pour ne pas être sec et dur avec les autres. Et ces Corinthiens étaient secs et durs. Moi je, c'est l'autre. Mais moi, le plus important. Nous devenons durs vis-à-vis des autres. Et il ne faut pas attendre de devenir dur pour dire « Ah, j'ai besoin d'être arrosé ». L'arrosage, ça se fait quand ? C'est régulier. Selon les plantes, ça dépend. Mais il y a toujours une régularité. Moi, je suis nul en plantes, mais ça, j'ai compris quand même. Parce que j'ai vu les plantes que j'ai chez moi, quand j'arrose pas, ils deviennent secs. C'est juste la normalité. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Pourquoi Dieu fait croître ? Eh bien, c'est Dieu déjà qui donne les moyens pour que nous portions du fruit. Pour que nous ne soyons pas en mauvaise santé spirituelle, il a donné déjà des ouvriers. Et il a donné même aux ouvriers des arbres à planter. Hein, il a dit à Paul, justement, en Corinthiens, il a dit « parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville ». Donc son travail à Paul, c'était de parler. Et c'est comme ça qu'il plantait. Et il dit à Apollos d'arroser. Apollos n'a qu'à quoi aussi ? Enseigner pour que quoi ? Les arbres soient arrosés. Il doit parler de la part de Dieu. Mais toutes ces choses, cette parole, est-ce que ce sont leurs paroles ? Qui a fourni les moyens ? C'est Dieu. C'est la parole de Dieu. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il peut y avoir plusieurs enseignants qui impactent la vie d'une personne, mais l'important c'est de savoir que celui qui fait l'œuvre, c'est Dieu. Vous pouvez planter, on peut planter, mais dans le mauvais champ. Ça arrive, hein ? On plante dans le mauvais champ. On plante dans notre champ. Viens chez moi. C'est notre champ. Mais on n'amène pas les gens jusqu'à Dieu. On peut aussi quoi ? Arroser. Mais ne plus arroser avec l'eau de la parole. Arroser avec tout ce que l'on trouve. Ah bah écoute, tiens, il y a un truc là. Ça peut être n'importe quoi. Du pesticide même, ça se trouve. Du coca, tout ce que vous voulez, on arrose avec ça. Et ce qui vous a été enseigné la semaine dernière, c'est que ce n'est pas le travail d'une personne, c'est un travail d'équipe. Et avec Dieu, c'est toujours un travail de quoi ? D'équipe. Ce n'est pas le travail d'une personne. Chacun a un rôle bien défini. La gloire, si ce n'est pas une personne qui le fait, revient à qui ? À celui qui fait croître ? À Dieu. Vous connaissez les cornflakes Kellogg's ? Vous connaissez Kellogg's ? Vous connaissez ceux qui labourent pour le blé? Vous connaissez leur nom? Vous connaissez ceux qui sèment? Vous connaissez leur nom? Vous connaissez le nom de qui? Kellogg's. Kellogg's fait des cornflex. C'est ça qu'on connaît, non? Et lorsque vous appréciez, vous dites « Ah, j'aime bien les cornflex de Kellogg's ». Vous ne dites pas « J'aime bien les cornflex de celui qui a fait l'œuvre sur cette partie du champ, etc. » Vous louez qui? Celui qui a fait Kellogg's. Et ils ont juste besoin, ceux qui font le travail, de travailler et de recevoir le salaire et de bien vivre. Ils n'ont pas besoin d'avoir leur nom affiché sur la boîte de céréales. Le seul nom que l'on doit retenir, c'est celui du propriétaire, celui qui donne les moyens. Et dans les églises, c'est pareil. Celui qui doit recevoir la gloire, c'est celui qui a appelé au ministère. À Dieu seul, la gloire. Alors pourquoi des disputes et des divisions? Pourquoi nous comparons-nous, nous arrêtons-nous sur des noms d'ouvriers comme si certains étaient plus importants que d'autres? Celui qui plante et qui arrose, nous dit le verset 8, sont quoi? Égaux. On pourrait dire quand même les apôtres sont plus importants. Non, ils sont égaux. Pourquoi? Eh bien, parce que chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Mais qui va payer pour la récompense? Qui va payer pour son salaire? C'est nous? Qui l'a embauché? C'est celui qui l'a embauché, c'est Dieu. Et sa récompense, souvent on se dit, ah ben il faut donner le salaire à l'ouvrier. Oui, c'est vrai, mais Dieu lui a déjà donné un bon salaire. C'est de vivre tout cela au milieu des frères et sœurs. Et quand vous voyez Paul, est-ce qu'il a l'air de râler quand il intervient? Il est heureux dans son ministère. Et c'est déjà ça, sa récompense. Il sait qu'il a cette vie avec Dieu, il sait qu'il mène une vie dans la sainteté, et c'est ce qu'il veut partager tout simplement à ses Corinthiens. C'est, vous êtes appelés à être saints. Vivez dans la sainteté. Pour travailler dans son champ, Dieu n'embauche pas des cadres. Il n'embauche pas des cadres, il embauche des quoi ici? Des ouvriers. C'est quoi la différence entre un cadre et un ouvrier? Un cadre, faites ceci, tout le monde fait cela, j'encadre tout le monde, ta 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 ta. Et les ouvriers, c'est plutôt, ils reçoivent des instructions. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font selon, qu'est-ce que tu as écrit? Je dois faire comme ça, ok, je fais comme ça. C'est ça des ouvriers. Et c'est ça qui est différent, on n'est pas là pour dire comment ça doit se passer dans l'église. C'est déjà écrit à l'intérieur, il faut juste suivre les instructions. Voilà pourquoi nous sommes des ouvriers. Mais le problème de ces Corinthiens, c'est qu'ils voulaient être des cadres quand même. Un cadre, c'est quand même un meilleur titre que ouvrier. Et un cadre, on a quand même des bonnes idées. Moi, j'aimerais changer un peu la manière de faire. Bon, la Bible, ok, ça fait combien de temps qu'elle est là? Bon, il y a peut-être un autre moyen de faire quand même. C'était un peu comme ça avec eux. On a reçu l'enseignement de Paul, ok, mais on va changer un peu le moyen, au lieu de suivre les instructions. Mais un ouvrier, il va donner un autre exemple, de suivre les instructions pour former quoi? Le verset 9. Si on peut revenir, nous sommes ouvriers avec Dieu, donc la première partie, si vous êtes le champ de Dieu, mais la deuxième partie, c'est vous êtes l'édifice de Dieu. Et bon, à la limite, un champ, on dit on arrose, on plante. Mais vous avez déjà vu comment on construit un édifice? Et à l'époque, quand ils faisaient des édifices, ce n'était pas la cabane dans le jardin. Vous saviez à quoi ça ressemblait? C'était des grands édifices. Et vous pensez qu'une personne peut monter un édifice comme ça? Alors certes, il y a des personnes peut-être qui ont la connaissance de comment on le fait, mais en tout cas, il faut du monde pour cela. Mais nous sommes l'édifice de Dieu. Un édifice est un lieu fait pour contenir quelque chose qui va durer dans le temps. Et si moi je fais un édifice à moi tout seul, je prends des bois et je fais une cabane. Et je fais une petite cabane. Mais pour construire un édifice qui dure dans le temps, Dieu s'est mis des ouvriers. Des ouvriers. Ça veut dire que cet édifice, c'est un édifice qui est fait selon Dieu. Et Dieu, pour faire cet édifice, il va donner le moyen. Il donne les ouvriers. Tout à l'heure, on a vu dans le champ qu'il a donné l'eau de la parole, qu'on a vu qu'il a donné les arbres même, il a donné le lieu où le planter. Mais pour l'édifice, il va donner quoi? Il va donner d'abord les instructions, mais il va donner aussi la matière à utiliser. Et il va donner un avertissement. L'avertissement pour tous les ouvriers, c'est qu'au verset 10, il est écrit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. » Donc l'architecte, il y en a un. C'est Paul. Mais il ne dit pas que c'est un métier cadre. Il est toujours un ouvrier. Et un autre bâtit dessus, un autre ouvrier. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Il risque d'avoir d'autres personnes qui vont encore bâtir dessus, mais il faut qu'ils prennent garde. Il y a un avertissement. Le fondement, c'est Paul. Ce sont les apôtres. Celui qui va bâtir dessus, c'est Apollos et tous ceux qui vont venir derrière. Et jusqu'à ce jour, il y a toujours des personnes qui bâtissent sur le fondement des apôtres. Vous êtes d'accord ? Il y a toujours ça jusqu'à aujourd'hui. Et donc cet avertissement qui dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, c'est un avertissement pour nous aussi. Paul adresse cet avertissement aux ouvriers. Et il parle premièrement, non pas de la matière, mais prenez garde à la manière. Avant la matière, il va parler de la manière. Et la manière des Corinthiens, c'était ça le problème, c'était un petit peu comme tout le monde quand on débarque dans une entreprise ou quoi que ce soit, on veut tout innover. On arrive et dit, on va tout changer. Tout. Et la base que Paul avait mise, c'était Jésus-Christ crucifié. Et là, ces Corinthiens disent, ouais, mais ça, on connaît déjà. On va essayer de mettre autre chose. La base, c'était la parole de Dieu. On connaît déjà. On va essayer de mettre autre chose. J'ai de bonnes idées. Moi aussi, je suis un cadre. J'ai de bonnes idées. Si on était, au lieu de prêcher Jésus-Christ crucifié, d'ouvrir la Bible, pourquoi ne ramènerait pas chacun ne ramènerait pas une solution pour résoudre les problèmes ? Ah non, mais la Bible, on la ferme, mais on doit avoir des bonnes solutions. Plutôt que de parler de Jésus-Christ qui paye pour nos péchés, la base de notre vie, pourquoi on ne parlerait pas de choses un peu plus attirantes ? Le péché, ce n'est pas très attirant quand même. On va essayer d'avoir un nouveau concept. On ne parle plus du péché, on va parler de quoi simplement ? De la belle vie. Sans souffrance, sans rien, tout va bien. Ça, c'est une chose nouvelle. Et ce n'est pas un peu ce qui est enseigné aujourd'hui. On cherche quoi ? Le bien-être. On ne veut surtout pas vivre en sachant qu'il y a des péchés. Non, s'il y a un péché dans ma vie, c'est que c'est quelqu'un d'autre le problème. Quelqu'un doit avoir fait quelque chose pour que ça arrive comme ça. Mais Dieu nous dit quoi ? Non, le vrai problème, il est dans ta vie. Voilà pourquoi je viens intervenir dans ta vie, d'abord. Et la manière de Paul, c'était ça. Vous voyez, quand il écrit, il n'est pas en train de tourner autour du pot. Il dit quoi ? Ah, il y a un problème. Et le problème, il y a des disputes et des divisions. Et il faut dire quand il y a des problèmes. Parce que ce que je veux dans votre vie, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Jésus-Christ veut, c'est la sainteté. C'est ce qu'il dit depuis le début. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent à quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Le deuxième verset, il a annoncé la couleur dès le début. C'était à eux que s'adressait cette lettre. Pas à tout le monde, à eux. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. C'est eux qui sont l'édifice de Dieu. Ce n'est pas toutes les personnes qui viennent dans l'Église. C'est ceux qui ont donné leur vie à Christ. Mais parfois, on oublie que bâtir, c'est bâtir d'abord selon ce que Jésus-Christ veut, selon la manière qui est la bonne. Est-ce que je cherche à ce que Jésus-Christ soit la base dans l'enseignement ? Est-ce que je cherche à exposer la parole de Dieu ? Où est-ce que je cherche à exposer ma parole ? Est-ce que je cherche le salut des autres ou je cherche ma gloire ? Est-ce que je cherche à édifier ou à démontrer ma sagesse ? La base de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ. Il est notre avantage. On a la faveur de Dieu parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous sommes en Jésus-Christ parce que Dieu voulait quoi ? Il voulait bâtir quelque chose de durable. Et avec Jésus-Christ, ça va durer combien de temps ? L'éternité. Dieu n'est pas là pour bâtir quelque chose d'éphémère dans nos vies. Il veut quelque chose de durable. Et cette sainteté, c'est ce qui va durer. Mais pour cela, nous devons toujours avoir la base pour construire l'édifice. Et la base, c'est Jésus-Christ. Et ce qu'on bâtit dessus, c'est ce qui vient encore de Jésus-Christ. Mais parfois, on essaie de construire dans la vie des gens sans la base. On demande aux gens de changer une nouvelle vie sans passer par la sanctification. Je vous le dis, c'est impossible. Sans passer par la sanctification, il n'y a pas de nouvelle vie, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de fruit qui va grandir. Et nous allons aussi avec nos fondements, la sagesse de l'homme, comme on a vu précédemment dans les autres chapitres. Et un temps, ça va tenir debout. Un temps, ça va tenir debout. Hein. Vous savez, parfois vous avez des sages, vous dites, ah c'est assez sage, et puis un temps, ça tient debout. Et l'année d'après, ça s'écroule. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ? Qu'est-ce qui arrive quand un feu débarque sur un édifice ? Qu'est-ce qui reste ? Souvent. Il peut rester des choses, hein ? Mais souvent, il reste quoi ? Il reste les murs. Il reste les structures. Tout le reste, c'est cramé. Et dans un édifice, ce que Dieu veut poser, c'est la meilleure structure pour que l'on soit stable, même si le feu passe. Il faut que les ouvriers affermissent de la bonne manière, mais aussi avec la bonne matière, afin que l'édifice soit solide. Et on peut regarder le verset 12. Il y a des matières à utiliser. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et que dit la suite ? Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans quoi ? Dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. On va voir ce qui est éphémère et ce qui va durable. Mais ça doit passer par le feu, des choses de la vie, des choses qui, même la mort. La mort, on sait que c'est durable parce que même en passant la mort, vous avez quoi derrière ? La vie. Et dans cette vie, c'est durable parce que vous avez la vie, combien même il y a de l'adversité. Le monde, vous vivez dedans, mais c'est durable parce que même avec l'influence du monde, vous vivez comment ? Dans la sainteté. Mais ça vient de Dieu. Si ça vient de nous, dès qu'on va dans le monde, on suit le monde. Cette vie, elle va devenir plus précieuse que les choses de Dieu. Avant de bâtir l'édifice de Dieu, regardons quelle matière nous y mettons. Certaines matières sont durables. L'or, l'argent, les pierres précieuses et le bois. Parfois, le bois, les gens le sortent. Mais le bois est une matière qui dure. Vous expliquerez plus tard pourquoi. Il faut savoir déjà quel type d'édifice il est en train de fonder. On n'a pas encore dit. Mais en tout cas, il faut de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et du bois. Et puis, il y a d'autres matières qui vont disparaître. Le foin et la chaume, c'est simple. Hein. À peine ça s'approche du feu, ça disparaît tout de suite. Et ça, c'est ce que les hommes apportent, du foin et de la chaume. Mais Dieu, ce qu'il apporte pour son édifice, c'est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses et du bois. Et est-ce que vous connaissez un édifice qui est fait d'or, d'argent, de pierres précieuses et de bois ? On va regarder. 1 Chronique, verset 29. 1 Chronique, verset 29. Qu'est-ce qui est fait de ces matières-là ? Un Chronique, chapitre 29. Un Chronique, au chapitre 29, le verset 1er et le verset 2. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or. » De l'argent pour ce qui doit être d'argent. De l'airain pour ce qui doit être d'airain. Du fer pour ce qui doit être de fer. Et du bois pour ce qui doit être du bois. Des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser. Des pierres brillantes et de diverses couleurs. Toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. C'était pour construire quoi ? Le temple. Le temple de Dieu. Cet édifice qui est en train d'être fondé, c'est quoi ? Le temple de Dieu. Et c'est pas ce que dit le verset 16. Vous êtes quoi ? Le temple de Dieu. Alors quelle matière il faut mettre dedans ? Du foin ? De la chaume ? Non, les choses que Dieu a demandées. De l'or, de l'argent. Ici on a l'airain, le fer, mais le bois aussi et les pierres précieuses. Voilà ce que Dieu demande, des choses précieuses et durables dans le temps. Et si vous regardiez la ville de la Jérusalem céleste, il n'y a pas de foin de chaume non plus. Mais par contre vous retrouverez quoi ? De l'or. L'argent, des pierres précieuses. Parce que c'est ça que Dieu veut dans notre vie, des choses précieuses et durables. Et la question qui va se poser, c'est si on passe par le feu, par des épreuves, que restera-t-il de ce que Dieu, des enseignements que vous avez reçus ? Est-ce qu'il va rester zéro, consumé par le feu parce qu'on n'a reçu que des choses de l'homme ? Ou est-ce qu'il va rester l'or, l'argent, ce qui est précieux, les pierres précieuses ? Quel édifice Dieu veut bâtir dans vos vies. Est-ce que c'est un temple pour vous ou c'est juste un cabanon ? Dans quel édifice souhaitez-vous voir Dieu habiter ? Dans de la chaume et de la paille ou dans un palais ? Le verset 16, on va le lire quand même, du chapitre 3 de 1 Corinthiens. Le verset 16 nous dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Il n'a pas changé. Vous êtes quoi ? Saint. C'est la vocation. Depuis le début, il annonce la même chose. Et il va expliquer plus clairement ce que c'est. Vous êtes quoi ? Le temple de Dieu. Et si vous voulez que Dieu habite dans une bicoque, vivez dans la débauche. Si vous voulez qu'il vive dans un palais, vivez dans la sainteté. Mais quelle place doit avoir Dieu ? Et quelle place doit être, dans quelle place vous devez mettre votre vie ? Vous êtes un lieu saint. C'est étonnant, hein ? Vous êtes un lieu saint. Un endroit qui est la propriété de Dieu, où c'est Dieu qui s'installe. Et parfois on l'oublie. On se dit, c'est ma maison, c'est ma vie, c'est mon corps. Et celui qui dirige tout, c'est moi. Je fais ce que je veux, je mets ce que je veux dedans. Mais Dieu, il a dit, non, c'est mon temple maintenant. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est mon temple maintenant. Ne mets pas n'importe quoi dedans. Ne mets pas n'importe quoi dans ta vie. Ne prends pas n'importe quoi comme enseignement. Prends l'enseignement qui vient de ma parole, parce que là-dedans, il y a de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Dans un autre bouquin, vous aurez quoi ? De la chaume et de la paille. Voilà pourquoi ne changez pas cela. Et ce qui est bien, c'est que ce n'est pas à nous d'aller chercher, creuser cet or. Il a donné le moyen. Il a donné des ouvriers aussi. Mais il a donné la parole avec tout ce qu'il y a dedans. Donc il suffit de recevoir pour mettre quelque chose de bien dans notre vie. Pour mettre la parole dans notre vie. La sainteté, c'est l'environnement où Dieu vit. Sommes-nous un lieu de jalousie et de dispute ? On a vu que ce n'était pas un lieu de sainteté. Mais c'est ce que l'homme veut dans sa vie. Où sommes-nous un lieu où règne la grâce et la paix ? C'est-à-dire un lieu saint. Un temple. Qu'est-ce qu'il y a dans un temple ? La grâce et la paix. Ce lieu qui fait croître. Un lieu que lui-même, il a bâti. Laissez Dieu construire votre vie. C'est à votre avantage. Quand Dieu prépare une maison, il le fait selon ses capacités. Vous êtes d'accord ? Quand vous construisez une maison, vous le faites selon vos capacités. Si c'est Dieu qui fait la maison, il le fait selon ses capacités. Et vous attendez à quoi comme capacité de Dieu ? Ce qu'il y a de plus beau, ce qui est parfait. Laissez-le construire dans votre vie. Quand Dieu se prépare une maison, c'est beau. Et qu'est-ce que Dieu peut bâtir ? Une maison où il se plaira. Un palais glorieux, un lieu saint, ce n'est pas nous qui allons pouvoir savoir quelle est la meilleure maison pour Dieu. C'est lui qui le sait. C'est pour ça que la maison qu'il a bâtie, ce n'est pas une maison faite de main d'homme, mais faite de sa propre main. Mais on se dit, mais comment il le fait ? Eh bien, avec sa parole. Mais il le fait aussi parce que Jésus-Christ est le fondement. Et c'est la parole de Christ. Et Dieu a mis en place ça comme moyen. La base parfaite, Jésus-Christ. Les ouvriers qui suivent l'instruction. Le bon matériel, sa parole. Les bons matériaux qui en sortent, les œuvres qui sont bonnes, l'or, l'argent et les pierres précieuses. Pour nous, il n'y a que des bénédictions et des avantages dans cela. Alors pourquoi cherchons-nous autre chose ? Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. C'est à notre désavantage. Si vous mettez votre gloire devant des hommes, vous aurez ce que cet homme sera capable de construire. Pas grand-chose. Tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Mais vous êtes à Christ et vous êtes à Dieu. Si vous faites les enfants en disant que votre papa c'est le meilleur, c'est que vous n'êtes pas mature, c'est que nous ne sommes pas matures. Apprécions ce que font nos parents spirituels. Paul était un parent spirituel pour les Corinthiens, mais ne rejetons pas le service des autres. Prenons-le comme étant utile à nous. Toute chose, tout est à vous. Dans l'Église, tout est à Christ et c'est en lui qu'il faut mettre sa gloire. Usez donc des avantages, les prédicateurs, les situations. Mais rappelez-vous, et c'est vraiment ça qu'il faut se rappeler, c'est à notre avantage, et je le répète encore, parce que vous êtes à Christ et que Christ est à Dieu. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'avantage, il n'y a que du malheur. Il n'y a pas de bonheur, joie et paix, et c'est ce que voyaient ces Corinthiens. Ils avaient laissé le fondement de côté. Et y rencontrer jalousie et dispute. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes tous à Christ. Que chacun, vous pouvez dire, je suis dans un état où tout va bien, car tout est à mon avantage, je vis sous la grâce de Dieu. Donc Dieu me donne tout, et gloire à qui ? À celui qui me donne tout, à Dieu. que Dieu habite en vous. Ça aussi, si vous êtes à Christ, c'est que Dieu habite en vous et que vous vivez à la faveur de Dieu. Rendez-lui grâce, dit la parole, en tout temps. Car c'est le principal est déjà là. Et si vous n'êtes pas à Christ, si vous n'avez pas Christ crucifié dans vos vies, si vos péchés sont encore là à vous peser, il est normal que vous ne voyez aucun avantage à tout ce qu'on vient de dire. Parce que pour connaître un avantage, il faut vivre l'avantage. Vous ne pouvez pas connaître un avantage sans vivre l'avantage. Être à Dieu, nous on sait, c'est bon, ça nous donne la paix. Mais vous, vous regardez, mais comment est-ce qu'ils peuvent avoir une paix? Comment ils peuvent avoir le bonheur? Comment ils peuvent avoir la joie? Venez! Venez à Christ et vous le verrez. Venez à Christ et vous le saurez. C'est le seul moyen. Goûtez que le Seigneur est bon. Il faut goûter. Si vous ne goûtez pas, vous ne pouvez pas savoir quel goût ça a. Mais venez à lui. Vous pouvait être planté dans le champ de Dieu, un endroit où l'on grandit. Et que cette église soit un champ, un beau champ. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez comme fruit, mais le meilleur fruit qui ressemble pour vous à la sainteté, c'est ça, l'image que vous devez avoir. Et il faut prier pour l'église, il faut prier pour notre église, mais aussi pour les églises en général. Que ces choses disparaissent du milieu de nous, les jalousies et disputes, afin que nous ayons le témoignage qui convient, et qu'on n'aille pas dire ailleurs, « Ah, vous savez, à l'église de Nice, il y a des jalousies et des disputes. » Pas comme les Corinthiens, qui disent « À l'église de Nice, il y a bonheur, joie et paix. » Amen.
Amen.
Amen. On va prier pour cela. Seigneur, oui, nous voulons te remercier parce que c'est toi qui es le maître de tout. C'est toi le maître d'œuvre, c'est toi qui sais tout ce qui est bon. C'est toi qui nous connais. C'est toi, Seigneur, qui connais le cœur de chaque personne ici. Seigneur, ce que nous voulons, c'est que nous puissions partager cette belle vie dans ce champ, ce beau champ que tu as préparé, qui est ton Église. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui amènes des ouvriers pour travailler. C'est toi, Seigneur, qui amènes cette eau qui est bonne, rafraîchissante, dans laquelle on découvre tes merveilles, Seigneur. Merci parce que c'est à toi que revient toute la gloire. Merci, Seigneur, parce que même si tu nous fais co-ouvriers, Seigneur, c'est vraiment un honneur et c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Travaille dans nos vies. Fais de nous des personnes différentes, des personnes qui ne soient pas semblables à ceux de l'extérieur, mais qui soient semblables à toi. Que les gens voient que tu vis en nous, qu'il y a un changement dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que c'est possible. Tu l'as fait déjà auparavant et nous savons que tu es un Dieu fidèle et nous voulons compter sur toi. Que cette Église compte sur toi, que tu sois son fondement. Merci Seigneur encore une fois parce que je sais Seigneur que tu réponds aux prières, celles qui te plaisent Seigneur, celles qui sont selon ta volonté. Voilà pourquoi Seigneur nous voulons être confiants et regarder à ton œuvre, admirer ton œuvre, ce que tu vas faire ici. Nous te remettons ceux qui sont à toi, ceux qui se sont éloignés, qui se rapprochent, qui reviennent à côté de nous pour que nous puissions grandir ensemble. Que ceux Seigneur qui ne sont pas à toi Seigneur puissent venir, qu'ils puissent découvrir cette vie nouvelle. Je te remets les cœurs, tu sais chacun. Et Seigneur nous savons que tu demandes simplement une simple prière. Une prière qui veut se séparer du péché mais venir à toi. Et Seigneur, je te remets cela. Merci en tout cas, mon Dieu, pour ce culte que nous avons ce matin. Que tous ceux qui continuent, Seigneur, puissent être encore des moments de communion fraternelle, des moments où nous pouvons être en communion entre nous, mais bien sûr, surtout, entre nous et toi, Seigneur. Car tu es le centre de toutes choses. Que toute gloire te soit rendue encore dans le reste de ce culte. Amen.
Amen.